voyage au Sahara à la rencontre des petites communautés chrétiennes de cet immense désert algérien. Aujourd'hui, nous prenons la route avec Mgr Claude Rault, l'évêque du Sahara, pour nous rendre à El Golea, sur la tombe de Charles de Foucault et Timimoun, l'oasis rouge. Nous allons rencontrer des sœurs blanches très engagées dans la promotion féminine de cette région.
Une fois encore, Mgr Claude Rault prend la route pour visiter les petites communautés chrétiennes de son immense diocèse d'Algérie, celui du Sahara. Deux fois par an, il parcourt des milliers de kilomètres pour rencontrer la centaine de chrétiens disséminés par petits groupes de 3, 5, 10 personnes dans les villes ou dans les oasis de ce désert algérien. Le paysage est plat, caillouteux, semé de dunes. Nous aurons de la chance aujourd'hui, pas de tempête de sable. Et 240 km après Gardaïa, surgit en contrebas de la route l'oasis d'El Golea, appelé aujourd'hui El Manilla. Un peu à l'extérieur de la ville, à l'extrémité d'une palmeraie qui est en train de mourir, se trouve une belle et grande église, l'église Saint-Joseph, et à côté, le cimetière des Français, là où est enterré Charles de Foucault. Abba Kimouas, le vieux gardien algérien de l'église, est heureux de nous accueillir.
Le père de Foucault,
pour moi, le père de Foucault, c'est quelqu'un qui a toujours été très proche des pauvres. Il les a aidés. Et puis, il a appris notre langue. Il est devenu un peu l'un des nôtres. J'aime beaucoup cet homme, car il était habité par la sincérité.
On est très surpris quand on arrive à El Golea de trouver cette grande église qui est construite ici, dans la palmeraie. Qu'est-ce qui justifie qu'une telle église, qui est peut-être même la plus grande de votre diocèse, qui se trouve ici?
Oui, alors c'est le fameux village chrétien qui s'est implanté ici. Donc l'armée française occupait la plus grande partie du Sahara et il y a des militaires qui prenaient une femme de l'endroit, une femme du lieu, vivant avec elle pendant quelques temps, et malheureusement, laissait la femme et les enfants lorsqu'ils partaient. Alors souvent, la femme pouvait être reprise par la famille, mais pas les enfants. L'administration française a demandé aux pères blancs et aux sœurs blanches s'ils ne pouvaient pas recueillir ces enfants qui étaient pratiquement remis à la rue. Et on a fondé ici, dans les années 1930, deux établissements, un pour les garçons et un pour les filles, où les enfants étaient recueillis, on appelait ça l'orphelinat, étaient recueillis, éduqués. Alors ils avaient la possibilité, au moment de leur passage à l'état adulte, soit d'être chrétiens, soit de rester musulmans. Et un certain nombre ont gardé la foi musulmane et sont repartis dans leur famille d'origine, et d'autres ont choisi de devenir chrétiens. Si bien qu'ici, c'est petit à petit établi un village chrétien, et le village, disons, s'est constitué autour du tombeau de Charles de Foucault.
Alors on peut décrire un petit peu, dans le cimetière, il y a la tombe de Charles de Foucault,
c'est ça.
Qui est assez imposante.
Qui
est seule et qui est face à une cinquantaine de tombes
qui sont des chrétiens soit originaires d'ici, soit des pères ou des sœurs qui sont décédés et qui ont été enterrés ici, soit aussi des militaires qui n'ont pas été... les tombes n'ont pas été emmenées ailleurs. Et avec donc quelques, tombes récentes venant de où sont enterrés des migrants qui sont morts en route et qui ont été supposés chrétiens parce qu'ils souvent ils avaient une croix sur eux donc, et qui ont été enterrés ici.
Et est-ce que ce village chrétien existe toujours?
Non, ce village chrétien n'existe plus parce que au moment de l'indépendance, les chrétiens ayant d'emblée la nationalité française sont partis en France.
On va s'approcher de la tombe de Charles de Foucault.
Oui. La première tombe était ici, là,
là il reste,
devant, il ne reste rien, sol, et elle oui. était enterrée. Oui. Et comme il y avait un espèce de jardin autour et que l'eau montait, Monseigneur Mercier a décidé de faire un tombeau dans lequel on glisserait le cercueil. Donc là, c'est le nouveau tombeau.
Mais qui est sobre en même temps.
Oui, c'est ça.
En pierre grise.
En pierre grise, c'est ça.
Et deux marches blanches.
Voilà.
Et dessus, qu'est-ce qui est écrit?
Alors, il y a dessus, il est écrit, dans la tente du jugement de la Sainte Église, ici reposent les restes du serviteur de Dieu, Charles de Foucauld, vicomte de Foucauld, 1858-1916, mort en odeur de sainteté, le 1er décembre 1916, à Tavannes-Racette. Victime de sa charité et de son zèle apostolique. Alors il a écrit une de ses paroles, « Je veux crier l'évangile par toute ma vie. »
Père Charles de Foucauld.
Père Charles de Foucauld.
Qu'est-ce que ça vous fait, Monseigneur Roux, quand vous êtes ici, devant la tombe de Charles de Foucauld? Qui a bien, compté dans votre vie, dans votre
oui,
vocation.
Ça a compté, ça n'a pas tellement compté dans ma vocation. C'est-à-dire que je ne suis pas, disons, foucauldien de vocation, mais je le suis devenu de par l'héritage spirituel qu'il a apporté à l'ensemble de cette Église. Ce qui m'impressionne, c'est plus son existence et la façon dont il s'est situé dans le monde musulman, disons, m'impressionne. Il est venu comme... disons, évangélisateur, dans le désir de proclamer l'évangile.
Dans le contexte,
dans
de, la
le contexte
du 19e...
de la mentalité du 19e siècle. Et puis petit à petit, disons, il a pris conscience qu'il était déjà dans un contexte religieux particulier qui est celui de l'islam, qu'il a appris à respecter, à connaître. Et disons, il est devenu lui-même, de par sa vie, il a voulu venir de par sa vie, une image et un reflet de l'évangile sans pour autant proclamer l'évangile. Et il a été dans une certaine mesure assez innovateur dans sa façon d'aborder l'islam et les musulmans de façon très respectueuse en bannissant tout esprit de conquête mais en étant frère universel comme il le voulait et comme il le disait de toutes les personnes rencontrées. Du fait du nombre assez important des chrétiens, des familles qui étaient ici.
Ah, c'est une architecture mauresque.
Hein. C'est une architecture moderne, c'est exactement la réplique de Notre-Dame de Carthage auprès de Tunis.
Un beau mélange d'architecture
oui,
à la fois occidentale
oui.
et musulmane. Alors sur les murs, il y a des descriptions de la vie
alors,
de
oui,
Foucault
c'est ça.
Pour les visiteurs.
Alors ça, on peut le refaire de façon beaucoup plus moderne, mais bon, qui explique aux visiteurs... le parcours de Charles de Foucauld avec ses différentes photos.
Quand vous dites les visiteurs, ce sont des visiteurs chrétiens qui viennent en pèlerinage sur les traces de Charles de
Exactement.
Foucauld ou des musulmans?
Non, c'était juste ici, des pèlerinages organisés qui venaient souvent de Beni Abbès, Timimoun, ils venaient ici à El Goléa, ils passaient la nuit à Gardaïa et ils prenaient l'avion ensuite pour Tavannes-Racette. C'est tout un circuit qui a été organisé.
Et qui actuellement, en tous les cas en 2012, pour des raisons de sécurité,
ne peut plus se faire.
Et est-ce qu'il y a des musulmans qui viennent visiter ce lieu?
Bien sûr, la plupart des transcriptions qu'on a sur le livre d'or, ce sont, il y a beaucoup de musulmans.
Tout est écrit en arabe. Là,
tout est écrit en arabe.
Qui ne sont pas habitués à visiter des églises.
Ah non, souvent c'est la première fois qu'ils rentrent dans une église. Et ça les impressionne de par le silence qui en émane et puis aussi l'ambiance, l'architecture qui est assez belle.
Mon père Fahim, nous avons dit que nous avons été en train de faire des choses. Nous avons été en train de faire des choses.
Oui, je connais. Ah oui, alors le père Leclerc a été. Il est resté. Depuis très longtemps ici, depuis 1954 jusqu'en. Et il est mort en 1910. 2010. Et c'était vraiment d'abord un enfant du pays et puis un père du pays, quoi.
Oui, oui.
C'est vrai, c'est vrai. Il a beaucoup marqué la population par...
On demande à Dieu qu'il rentre au paradis.
Voilà, c'est oui. Ça, Inch'Allah.
Parce qu'il a fait beaucoup de bien.
Il a fait beaucoup de bien.
Oui. Aux gens.
Oui.
Pauvres.
Oui, oui. Il a aidé les pauvres, il a travaillé au musée.
Oui, il a travaillé au musée.
Il a travaillé aussi au centre de formation professionnelle.
Oui, moi je fais là avec lui.
Ah oui.
1960 jusqu'en 1966.
Il a toujours fait ça.
Et il vous manque le père Leclerc.
C'est des parents.
Quand après les nationalisations, le père Leclerc n'a plus pu travailler, il s'est consacré entièrement à la recherche en paléontologie et en géologie. Pendant les années noires, de 1993 à 2002, le gouvernement, pour des raisons de sécurité, voulait qu'il parte. Si j'étais marié et que ma femme devienne folle, vous pensez que je la quitterais ? A-t-il déclaré, et il est resté. Quand des rumeurs laissaient présager une attaque, la population d'Algoléa se relayait devant sa porte la nuit pour le protéger. Aujourd'hui, sa photo est dans l'entrée du musée que le gouvernement a construit pour abriter sa riche collection. Nous y retrouvons Nora Heitmengelet, la directrice de ce musée régional.
C'est grâce à lui, c'est lui le premier qui a commencé à faire la collecte. Il a conservé, c'est lui qui nous a conservé ces collections-là qui sont aujourd'hui dans le musée.
Collection de minéraux essentiellement.
Minéraux essentiellement, géologie, anthropologie, beaucoup de préhistoire. Et puis paléolithique et paléolithique inférieur, la poterie aussi et quelques pièces ethnographiques.
Parce que nous sommes dans une région qui est très riche au niveau géologique et puis au niveau de la préhistoire également.
Bien sûr, c'est une région très riche, c'est l'existence très très ancienne de l'être humain dans cette région du côté de Aoulef, Ain Salah et Algoléa.
Et merci beaucoup pour votre accueil, madame. Environ 400 km au sud-ouest d'Algoléa, au sud du Grand Erg occidental, se trouve Timimoun, l'oasis rouge à l'architecture néo-soudanaise. La grande fête du Zbou vient de se terminer et les marchés se vident peu à peu. À Timimoun vivent 4 sœurs blanches totalement immergées dans la population locale entièrement musulmane. 2 d'entre elles sont très impliquées dans la promotion féminine, Simone, dans la ville même de Timimoun, et Renée, qui elle se rend dans les Ksour, les villages fortifiés, isolés, dans cette région du Gourara. Alors ce René, vous m'avez emmené dans un endroit vraiment incroyable, on peut dire c'est un peu le bout du monde. Il y a une palmeraie qui est là, juste derrière nous, une falaise rouge, des maisons en terre, rouges. Comment s'appelle ce lieu ?
C'est Timjelet. C'est un village berbère. Hein. Ça commence par T et ça finit par T. C'est berbère.
Et vous venez combien de fois par semaine ici ?
2 fois par semaine, sauf maintenant on commence à laisser la responsabilité aux certaines jeunes filles. Donc je viens plus qu'une fois par semaine et elle continue à travailler, à se rassembler toute seule pour continuer.
Alors on va rentrer dans l'atelier hein, que vous avez créé. Qu'est-ce que vous proposez aux jeunes femmes ici ?
C'est surtout, au début, c'est une formation. Hein. Ils ont voulu la couture. Donc, par étapes, on apprend.
On va voir cet atelier.
Couture, tricot, aussi tricot à l'aiguille et tricot à la machine aussi. Broderie, elles aiment beaucoup la broderie. Au début, je trouvais que c'était un peu du surplus, alors qu'elles semblent qu'il faut vraiment... le nécessaire, mais elles veulent quand même la beauté dans leur maison et elles demandaient beaucoup la broderie.
Et alors là, vous leur apprenez ce travail de couture pour qu'elles commercialisent les choses ou c'est plutôt pour elles?
Pour leurs besoins de famille, non, c'est pour elles, oui, c'est ça. Au début, c'était vraiment pour une amélioration de leur vie familiale. Hein. Les enfants sont beaucoup mieux chaudement habillés avec des tricots. Et les filles aussi ont la possibilité de choisir leurs vêtements, hein, si elles veulent tel genre de robe ou de jupe.
Ah oui, vous dites chaudement habillé parce que...
En hiver, il fait froid, il fait
froid. Il fait froid l'hiver dans le désert, on a tendance à l'oublier. Ce sont des populations qui sont plutôt pauvres dans cette région.
Oui, parce qu'elles n'ont pas beaucoup de moyens de vivre. Il y a les jardins qui leur donnent de quoi manger et des bêtes, elles ont souvent des chèvres ou des moutons. Mais les hommes doivent s'expatrier ou aller dans les villes Gardaïa, Sime Saoud, Alger pour trouver du travail.
Qu'est-ce que vous souhaitez le plus apporter à ces femmes par votre présence ici depuis des années?
Mais la joie de vivre, je pense que c'est surtout ça aussi qu'elles demandaient. Hein? Bon, il y avait cet apprentissage, mais en même temps d'être revalorisées vis-à-vis des autres jeunes filles de Timimoun qui ont la possibilité d'aller à l'école. Ici, la plupart n'en sont jamais allées à l'école. Les plus âgées, hein? Les plus jeunes commencent maintenant à aller à l'école dans le village voisin. Donc, de faire quelque chose de leurs mains, elles se sentaient très revalorisées et très, très heureuses. On les voyait hein, quand elles avaient un objet terminé. Et qu'on apporte une ouverture aussi, elles veulent connaître beaucoup de choses. En plus, il y a des formations aussi plus générales. Il y a notre sœur Blanche qui arrive au moins un mois par année, une ancienne sage-femme, donc qui donne des cours d'anatomie, hygiène, post-natal, prénatal, et tout. Elle répond aux questions qu'elle leur demande. Donc ça, elles aiment beaucoup aussi. Il y a toute une ouverture qu'elles désirent. Hein.
De retour à Timimoun, nous retrouvons Sœur Simone qui revient de son travail avec les femmes pour développer un artisanat de qualité. Je lui ai demandé ce que voulait dire pour elle, religieuse, missionnaire, le mot d'évangélisation.
Pour moi, l'évangélisation, c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait, la façon dont on travaille, on fait attention, j'essaye à ce que les plus faibles arrivent aussi à faire quelque chose. Autrement, elles sont toujours dans un coin, on ne s'en occupe pas. Non, je pense que par notre présence, on fait énormément. Du fait aussi qu'elles nous acceptent différentes. Elles voient qu'on n'est pas musulmane, elles savent que je ne suis pas musulmane, mais elles m'acceptent telle que je suis. Et ça, pour moi, ça me réjouit beaucoup. Quand je vais au travail le matin, par exemple, je vais à pied, et bien je croise plein de gens qui vont à leur travail, les étudiants, les jeunes filles, les lycéennes. Tout le monde me salue et me dit bonjour. Moi, je trouve ça me réjouit en partant. Salem, Spahel Rir, la paix soit avec toi, que ta journée soit bonne. Dieu est présent dans tout leur comportement, dans tout ce qu'on dit. Et moi, ça me réjouit parce que je me dis, bon, il y a une communication, je ne sais pas vous dire, je le ressens très fort quand je vais au travail le matin. Et elle aussi, elle m'évangélise. Hein?
Oui, comment?
Elle m'évangélise aussi. Ah ben, bien sûr. Les valeurs que nous avons dans l'évangile, elles l'ont aussi. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que nous qui les avons. Hein. Alors ça
et bien, en quoi elle vous évangélise?
Bien souvent.
Ça fait des années que vous êtes en contact de musulmans, en Tunisie, en Algérie. En quoi ils vous ont évangélisé?
En quoi ils m'ont évangélisé? Eh bien, le partage. Le partage, je crois que c'est une des grandes valeurs de l'islam. L'accueil de l'autre. Quand je vois comment eux sont accueillis dans nos pays. Et ici, un accueil. Et puis, Dieu est présent dans tout. On parle du maktoub, là, hein, l'islam, c'est la religion, on est soumis à Dieu. On pourrait dire, oh, ils se laissent faire, ils n'en ont pas. Mais non, pour eux, c'est très important. Dieu est présent dans tout leur comportement. On ne peut pas, dans toutes les phrases, on dira, bien, c'est des phrases, ils ne pensent pas ce qu'ils disent. Mais je ne crois pas.
Ce n'est pas des phrases automatiques.
Ce n'est pas des phrases automatiques. Moi, je peux rendre grâce à Dieu d'être ici, dans ce pays. Ça m'a transformée. Hein? Ça m'a transformée. Et puis aussi, ce que je pense, pour moi, de vivre dans ces pays, ça m'a changé tout mon horizon. Parce que nous, on a été élevés quand même. La religion catholique, c'est la meilleure. C'est nous les meilleurs. Eh bien, ce n'est pas vrai. Et je me dis, combien de fois, mais ils sont bien mieux que nous. Hein? Ils vont avoir la première place. Hein?
Alors vous n'avez pas eu envie de vous convertir à l'islam?
Ah non, quand même pas. Non, je n'irai pas jusque-là. Hein. Et souvent, je me dis, alhamdoulilah aussi, je dis, j'ai de la chance parce que ce qu'il y a pour nous, pour moi, la valeur que nous avons, que pour eux, bon, c'est la liberté. Dieu nous a rendus libres. Jésus nous a rendus libres. Hein. On est libres, voilà. On a une conscience
Et ça, vous le sentez moins dans l'islam?
Ah oui. Je me souviens quand j'étais sur Alger, je faisais faire la broderie aux filles et on m'avait demandé pour le diocèse de faire broderie des étoles pour les prêtres, sans étoles. Je travaillais à Tibérine à ce moment-là, je fais travailler les jeunes filles là-bas. Et c'est une jeune fille de la Casbah, j'avais demandé de broder le Lego de l'église d'Algérie. Et puis voilà que la fille l'a refusé par après. Je dis, mais pourquoi? Je voulais comprendre. Elle a dit, écoute Simone, tu sais, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans notre religion. Ah bon? Écoute, bon, qu'est-ce que c'est? Alors elle a dit, tu sais, c'est des choses qui vous allez prier avec. J'ai été demandé conseil. J'ai été à la mosquée, j'ai été demandé. Et j'ai expliqué. Et je lui ai dit que j'habitais chez vous et tout, parce que c'est une fille qu'on connaît bien depuis 20 ans. Et elle-même, elle profite de la maison où elle travaille et tout, de l'église. Je lui ai dit, écoute, et quand l'évêque vient ici, à ce moment-là, vient ici et tout, et tu le reçois, tu lui fais à manger et tout ça. Et tout, ah, c'est pas la même chose. Puis elle me regarde avec les larmes dans les yeux. Tu sais, Simone, j'ai peur. J'ai peur de Dieu. Oh, ça m'a fait, je suis encore, maintenant je suis encore émue. Oh là là, j'essaie de lui dire, mais non, écoute, Dieu t'aime. Non, la peur, on les a mis dans un carcan. Et je me suis dit, il n'y a pas de faille par où entrer. Voilà, tu vois, c'est ça, pour moi, le point le plus difficile à accepter chez eux. Voilà. Pas de liberté.
Père évêque, nous sommes installés sur la terrasse des Sœurs Blanches de Timin Moon. Pour des questions d'effectifs, pour des questions d'âge, ces sœurs vont bientôt partir. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le départ de cette communauté de sœurs ici à Timin Moon?
C'est sûrement toujours un arrachement de voir une communauté religieuse quitter surtout une ville comme Timin Moon où leur présence est très conviviale et où elles travaillent très activement à la promotion féminine dans une ville très petite et puis aussi dans les villages environnants. Et si elles devaient partir définitivement, ce serait pratiquement l'éradication d'une communauté présente et de toute présence chrétienne dans cette oasis. Et pour moi, la perspective est extrêmement douloureuse, mais elle n'est pas sans espérance, puisque je suis en recherche et déjà en contact avec deux congrégations possibles pour pouvoir prendre le relais.
Des congrégations en Europe, en Afrique?
Il y en a une que j'ai contactée en Égypte et une autre que j'ai contactée en Afrique subsaharienne.
Alors ça, est-ce que c'est vraiment une partie de votre fonction, de votre rôle d'évêque du Sahara, de chercher en Europe, en Afrique, des congrégations pour qu'elles puissent venir ici?
Sûrement, ça me prend beaucoup d'énergie, et au niveau de la recherche, et aussi au niveau des voyages. Parce que je ne fais pas d'appel d'offres par email ou sur Internet, je vais sur place et je rencontre les personnes, les responsables des communautés religieuses, en leur montrant quel est l'enjeu d'une présence chrétienne en milieu musulman.
Et qu'est-ce que ça vous fait, vous, qui vivez ici depuis 40 ans dans ce pays qu'est l'Algérie, quand vous entendez parler de ce pays avec, je dirais, beaucoup d'aspects négatifs? Quand on est en France, il y a beaucoup d'images sombres qui restent collées à l'Algérie. Qu'est-ce que ça vous fait, vous?
Ça me blesse profondément, parce que ce sont souvent des images tout à fait caricaturales qui, heureusement, disparaissent lorsque des personnes viennent sur place et puis se rendent compte que l'image qu'on leur présente ou l'image que véhiculent certains médias sont tout à fait erronées au niveau des personnes, au niveau d'une appréhension, disons, de certains responsables politiques ou autres, c'est autre chose, mais au niveau de la population, c'est totalement différent.
Prochaine étape de notre voyage au Sahara, Beni Abbès, la perle de la Saoura, au milieu des dunes. Des petits frères de l'Évangile et des petites sœurs de Jésus y vivent comme Charles de Foucault le souhaitait, en y fondant sa première communauté, une vie simple et fraternelle avec la population locale. À la semaine prochaine.
C'était regard, pas regard sur l'événement, c'était contre-courant avec Thierry Dionnet.